Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Et nous accueillons Maxime Lapierre en ce vendredi soir. Salut Maxime.
Salut mon Mario.
Comment ça va? Est-ce que tu vis encore la fièvre Hulonen ce soir, 24 heures plus tard?
C'est beau à voir, par contre, un jeune, qu'est-ce qu'il peut faire avec 7 minutes de temps de glace?
C'est bien pour dire, hein? C'est bien pour
ça
dire.
Ça me rappelle des mauvais souvenirs.
Vraiment?
L'étiquette quatrième trio, des fois, c'est très difficile de s'en débarrasser. Puis peu importe ce que tu es capable d'accomplir lors d'un match, on dirait que tu l'auras pas ta chance, peu importe. Puis j'aimerais ça le voir un peu plus, Mario, honnêtement. Tu sais, on peut le voir qu'il y a un talent de marqueur, qu'il y a un lancer très pesant, comme on dit dans le monde du hockey. Une petite présence de temps en temps avec un joueur de centre offensif, puis peut-être un peu un avantage numérique. Il me semble que ce serait un beau test à faire dans une année de reconstruction.
Commençons avant de le mettre sur un premier trio en audition ou quoi que ce soit, juste par parler de la carte. Pourquoi Pezzetta avant lui? Je sais qu'ils ne tiennent pas leur hockey du même bord, mais tu sais que ça compte pas tellement maintenant. Là, des fois, on a des trios de trois droitiers, trois gauchers. Idéalement, tant mieux. Mais pourquoi donc Pezzetta est plus difficile à écarter de l'alignement que Kelonen, qui semble assez facile à écarter de l'alignement? Personne chiale quand Kelonen est sorti de l'alignement. Il n'y a pas personne qui chiale, là.
Non, j'ai aucune idée. Puis, tu sais, des fois, c'est tout simple. On joue contre une équipe plus physique, des défenseurs qui mettent plus de pression en territoire offensif, donc c'est plus difficile de sortir la rondelle. Il y a souvent une petite raison comme ça, mais la réalité, c'est que c'est un jeune joueur, puis j'aimerais ça qu'on le teste. J'ai l'impression qu'on le teste pas. Puis j'espère que, tu sais, on parle souvent de la reconstruction, de tester nos jeunes joueurs. C'est pas juste pour les choix de première ronde puis de deuxième ronde. C'est pas juste les joueurs étoiles qui doivent être testés. On parle souvent de profondeur. Il y aura des joueurs qui auront besoin un jour, quand ça va être le temps de gagner des gros matchs, de jouer sur le troisième trio, quatrième trio, tout en ayant un talent offensif pour être prêt à remplacer, pour dépanner un match de temps en temps. Tu sais, les équipes gagnantes en ont des joueurs comme ça. Des joueurs que tu le regardes sur le quatrième trio puis tu te dis, si jamais on est vraiment mal pris, ben on le descend sur la première puis il est capable de jouer une période là puis de suivre le groupe. Donc, j'aimerais ça un plus haut temps de glace. 7 minutes, là, Mario, tu sais, comme moi, tu peux rien accomplir.
C'est incroyable.
Même s'il l'a fait hier, là. Non, puis
qui réussissent à compter. Il y a quand même 3 buts. Quand tu regardes la production de plusieurs attaquants, je veux dire, pour beaucoup, beaucoup plus de minutes, donc un bon ratio. Il reste que veut pas, puis c'est difficile, parce que même nous, à un moment donné, on le voit comme une quantité négligeable, parce que si l'équipe le voit comme une quantité négligeable, faut vraiment que tu sois en amour avec un joueur pour monter sur un toit avec un haut-parleur pour dire « Faites jouer Elonen, hein, Maxime? » C'est comme, tu sais, quand tu faisais ton alignement en début d'année, je suis pas sûr qu'il était sur un de tes 4 trios non plus, là.
Mais... Non, mais tu te rappelles, Mario, on avait discuté que l'an passé, il avait quand même fait des belles choses, que ce soit à Laval, à Montréal, puis on se disait, j'ai hâte de voir ça va être quoi sa progression à lui, parce que, tu sais, faut pas non plus perdre des jeunes joueurs un jour pour rien. Il faut les avoir testés puis se le confirmer dans nos têtes que, OK, il y en avait pas plus que ça, puis c'était pas un joueur qui était capable, comme tu as mentionné tantôt, peut-être de dominer ses 2 premiers trios, puis il a peut-être pas les atouts nécessaires pour être un spécialiste sur le 3e, 4e trio lorsque ça va être le temps de gagner, mais c'est pas avec 7 minutes qu'on va savoir ça.
Non, t'as raison. Tu sais, je regarde son âge. Lui, il a 24 ans, janvier, février, mars. Il a eu 24. Fait qu'il va avoir 25 en mars prochain. Tu sais, quand tu regardes, puis là, j'ai pas tout le mois auquel ils ont vraiment, sont arrivés à éclosion, mais quand tu penses à des Jonathan Marchessault, des Martin Saint-Louis, des, puis tous les gars qui ont eu comme leur occasion de performer, t'as Yannick Gourde. Il y en a beaucoup que, tu sais, quand on parle d'un sport à développement tardif, à part pour les très exceptionnels, 25 ans pour une catégorie de joueurs, tu veux dire, c'est pas des gens qui vont nécessairement une carrière de 15 ans, mais ils peuvent faire un 3, 4, 5, 6, 7 ans, puis des fois, ils deviennent indispensables à une équipe dans des rôles de profondeur, et des fois, dans des rôles de marqueur comme Marchessault, mais c'est pas des gars qui ont eu leur chance à 20 ans, là, Martin Saint-Louis non plus.
suis tellement d'accord avec toi. Puis ça existe, des joueurs qui se développent sur le tard. Puis c'est difficile pour les organisations d'en prendre soin parce que t'as tellement d'autres casse-têtes quand tu regardes, mettons, Martin Saint-Louis puis son groupe d'entraîneurs, puis Kent Hughes. Tu regardes la performance de tes joueurs étoiles. Tu regardes tes joueurs à Laval. Tu regardes tes vétérans. Sont-ils heureux? Les joueurs que tu veux faire jouer pour les transiger. À un moment donné, on s'entend qu'un Ilonen, il passe. Il est en arrière de l'autobus, là, on s'entend, tu penses pas vraiment à lui, puis à sa carrière à lui, puis en même temps, tu te dis, si je le perds, ben, il était pas supposé d'être d'implant, tu sais, c'est pas une grosse perte. Donc, faut faire attention à ces joueurs-là, des fois, puisque je pense en particulier à un Lekkonen, qui était juste une profondeur ici, mais je pense qu'on a réalisé que quand tu le faisais jouer avec des joueurs de premier, deuxième trio, il était capable d'être le complément parfait pour ces gars-là. On l'a jamais testé, ça, de notre côté à Montréal.
C'est spécial, pareil. Lekkonen, l'as-tu rentré dans la bande tête première l'autre jour?
Ouais,
c'était pas beau, ça. Moi, j'en reviens pas, Maxime. Tu as joué dans la Ligue nationale. Comment ça fait qu'il n'y a pas eu plus d'accidents graves que ça? On parle des accidents avec la lame de patin là, depuis la mort d'Adam Johnson en Angleterre. Mais tu sais, les bandes, à mon avis, constituent l'élément de danger numéro un. Peut-être pas autant que les patins, mais autant que les patins. Hein, moi, j'ai toujours peur, même comme père d'enfant, même dans l'hockey mineur, t'as toujours peur d'une mauvaise chute le long d'une bande. À la vitesse, les gars arrivent, là. Des fois, quand il y a une bataille, là, pour la rondelle, pas loin du filet, là, écoute, ça m'arrive souvent, là, d'avoir hâte que le gars se relève pour être sûr que le gars est correct. Mais Lekkonen, ouf.
J'y pense très, très souvent, Mario. Je vais être sincère avec toi. Puis je peux te dire que dans ma ligue de bière, j'arrête très loin de la bande puis je me fous de ma chance de marquer parce que là, ça compte plus puis c'est plus mon métier. Mais t'as tellement raison que ce soit bloqué des lancers, les patins, on l'a vu. Il y a un autre jeune aussi, là, hier, je sais pas dans quelle ligue, s'est fait couper à la gorge. Il a été protégé par son protège-cou. La coupure était quand même moins dommageable.
Ah, il y avait un protège-cou? Moi, j'ai juste vu les points de suture.
Il y avait un protège-cou en plus. C'est ça qui l'aurait sauvé parce que la coupure est moins profonde, là, bien évidemment. Mais faut faire attention, faut être prêt.
Cole Caulfield va-t-il marquer bientôt à 5 contre 5? Aimes-tu le travail qu'il exécute sans nécessairement là concrétiser?
Ben écoute, je peux pas te dire que je vois un gars qui travaille là quand même, là, il essaie de créer quelque chose, mais c'est difficile, Mario. Tu sais comme moi qu'il a besoin de son passeur. Puis ça, j'en parle tellement souvent avec Guillaume. Comme Guillaume me dit, écoute, moi, mon rôle dans la Ligue nationale, c'était de marquer des buts. Ça me prenait un passeur. Fait que quand même bien que tout le monde chialait sur mon jeu ou pas, moi, je suis le gars qui attend puis qui a juste en tête de tirer sur réception ou d'avoir une opportunité. Puis c'était ça, mon rôle, de marquer des buts. Puis je suis d'accord avec lui. Tu sais, après plusieurs discussions, je me dis, ton rôle, c'est de marquer des buts, mais ça te prend quelqu'un qui t'amène sa palette toujours bien, là, tu sais. Puis c'est, ce gars-là, c'était Suzuki. Je comprends le test. Je comprends qu'il fallait essayer des choses. Mais même que j'étais content au début qu'on teste quelque chose de nouveau, mais la réalité, c'est que Caulfield a besoin de son Suzuki. Comme que les joueurs étoiles dans les autres organisations, Ovechkin, il avait son backstrom, puis les joueurs qui marquent des buts sont habitués à un certain style de jeu, puis moi, je pense qu'on est prêt à revenir avec Caulfield Suzuki.
Écoutons Martin Saint-Louis à ce sujet.
Ben, moi, je pense qu'on parle de... faut en faire plus. Puis... Cole, il apprend à en faire plus sur la glace à part de scorer. OK? Puis, je suis pas sûr que ça s'est fait demander ça pour lui dans sa jeune carrière. OK? Fait qu'on travaille beaucoup sur les détails de Cole. C'est pas les détails de marquer des buts. Fait que, je te dirais que, comment qu'il débloque, c'est qu'il continue à travailler sur les choses qu'on parle. Puis d'être opportuniste quand il y a ses chances, parce qu'il y en a des chances.
C'est intéressant quand même la réflexion, puis peut-être que ça va mieux pour apprivoiser cet aspect-là du jeu loin de Nick Suzuki.
Oui, mais de ce côté-là, par contre, si c'est ça le plan de match avec lui, qu'on lui dit de mettre le focus ailleurs en ce moment, Mario, je peux te le garantir qu'en tant que joueur de hockey, quand tu commences à te concentrer sur quelque chose d'autre, t'oublies tes objectifs principaux, puis tu te dénatures d'une certaine façon jusqu'à temps que tu sois capable de mixer les deux. Tu sais, je pense souvent, l'exemple parfait pour moi, c'est les joueurs physiques. Tu sais, des fois, tu essaies de frapper du monde, tu marqueras pas de but si tu es concentré à jouer physique au début de ta carrière. Puis si tu essaies de te concentrer de marquer des buts, ben des fois, tu laisses un peu de côté la mise en échec. Donc, c'est d'être capable de faire travailler tes deux outils principaux conjointement. Puis je pense que si c'est ça, en tout cas, le but, j'imagine que c'est défensivement. Là, on s'entend que normalement, les jeunes joueurs, c'est de s'appliquer défensivement. Ben, ça va être une question de temps alors, puis il reviendra plus fort pour jouer avec Suzuki quand ça sera le temps, c'est tout.
Mais moi, j'aime l'attitude qu'il démontre quand même, en tout cas au micro, je sais pas s'il pense autrement loin des micros, mais de jouer avec un Slavkovski qui progresse bien, à mon humble avis. Puis tu sais, l'autre aspect de c'était Slavkovski, je sais pas que ça va donner un jour à maturité s'il va jouer avec Caulfield puis Suzuki, mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, il aime ça avoir la rondelle, Slavkovski. Ça sera pas juste un grinder là à terme, là. C'est un gars qui va avoir la rondelle. Puis je trouve que s'il joue avec les deux, il y a trop de complicité entre les deux pour que le troisième soit impliqué dans le jeu, tu me suis? Puis je trouve qu'en étant junior qu'avec un des deux, ça lui donne l'occasion de contrôler la rondelle ou avec d'autres trios, là, mais je parle dans ce cas-là là, quand il joue avec Cole.
Ouais, 100%, puis je suis content que tu dises ça, parce que la progression de Slavkovski, on le voit, le petit 1% qu'il s'améliore de match en match, c'est un peu plus confiant que la rondelle, un peu plus solide sur ses patins, tu sais, il se fait encore frapper une fois de temps en temps, mais l'année passée, là, souvent, c'était dramatique, il passait près de se faire blesser sur des grosses, grosses mises en échec, parce qu'il avait la tête basse, on le voit, sa réaction sur les replis défensifs, tu vois qu'il y a une certaine lecture de jeu, moi, je trouve que ça va à bonne place. Puis, je vais dire de quoi, je vais continuer de le dire. Moi, je pense que ça va être définitivement être un gars qui va jouer ses deux premiers trios, qui va être le gros joueur pesant avec des bonnes mains. La seule chose en ce moment que j'ai hâte de voir, c'est son lancer décoché de la bonne façon, avec autorité, des lancers puissants qui sont pas...
C'est une jambe, deux jambes en mouvement aussi. Ouais. Tu vois qu'il y a des choses concrètes à améliorer, Maxime, pour devenir un joueur d'élite. En terminant, Barbachev a ramassé Jack Eye vraiment solide, mais tu sais, c'est un gars qui frappe, fait mal. Je trouve quasiment que c'était indécent la mise en échec sur Samuel Girard il y a quelques années, là, quand il avait défoncé le sternum. Trouves-tu que c'est un gars qui frappe pour blesser?
Ben hier, c'est une mise en échec normale, même si tu regardes le jeu au ralenti, ben c'est Jack Eye qui voulait donner une mise en échec renversée, puis il a pas eu le temps de le faire, et s'est rendu compte qu'il y avait un joueur aussi. Mais tu sais, Mario, c'est la réalité d'un joueur comme Jack Eye, c'est... Puis j'ai été le joueur qui aimait donner des mises en échec. Je peux-tu te dire que c'est le nom que tu as sur le tableau si tu affrontes le Canadien? Tu veux prouver que tu es capable de frapper le gros bonhomme de l'autre côté pour donner du momentum à ton équipe, puis on le sait, Barbachev, c'est un gars solide qui est capable de frapper... Des gros bonhommes, puis Jack Eye, ben la prochaine fois, il va être prêt. Aussi simple que ça.
Ouais, je pense qu'il va être prêt, ça c'est sûr, parce qu'elle va te dire, les cloches du shérif ont sonné en espérant que c'est rien de trop grave. Maxime, bonne fin de semaine. En quelques secondes, nous regardes-tu les Alouettes dimanche?
C'est sûr et certain. On regarde toujours le football le dimanche, mais là, si les Alouettes en finale en plus, on va regarder ça.
All right. Merci, mon Max. Bye.
Salut,
bye.
Mon Mario.
Salut. Bye, bye. Bye. On vient dans un instant avec Daniel Sauvageau. On va parler de quoi vous pensez de hockey, du camp d'entraînement de l'équipe féminine professionnelle et aussi du Canadien.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Nous voilà de retour avec Madame Sauvageau, Danielle de son prénom, directrice générale de notre équipe de hockey féminine de la Ligue professionnelle, dont le camp d'entraînement a commencé cette semaine. Bonsoir, Danielle.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut, Mario.
Alors, Danielle, comment se passe le début du camp d'entraînement de l'équipe féminine?
Très, très bien. Moins le fun un peu pour les joueuses parce que, comme tu sais, là, les trois premières journées d'un camp d'entraînement, que ce soit dans la Ligue nationale ou autre, est composé là, des tests médicaux, les tests physiques. C'est jamais belle fun, mais en même temps, ça permet aux joueuses de voir là où elles en sont. Et surtout, nous, je rappelle aux gens là, que nous avons des joueuses de partout au Canada, aux États-Unis, même en Europe, en République tchèque, Suède. Alors, c'est important pour nous là, de savoir si elles sont en santé, s'il y a des petits bobos, de s'assurer qu'on leur procure les plans d'entraînement qui sont adéquats. Il y en a qui faut qu'elles doivent là, justement regarder sur le plan physique là où elles sont rendues. Alors là, c'est le fun parce qu'on va pouvoir évidemment les encadrer sur le plan dit individuel et non générique, de s'assurer là qu'elles puissent progresser adéquatement là au cours des prochaines semaines. Mais demain, pour elle, nous allons être sur la glace. Alors, on a tourné la page aujourd'hui avec toutes les choses qu'on se devait de faire sur le point organisationnel. Et demain, ben là, ça va être encore plus fun parce que c'est le chandail et les patins qu'on aura aux pieds.
As-tu un discours d'accueil ou c'est à venir, ça, tu sais, comme la DG qui s'adresse à tout le monde, bonne chance à tout le monde, quelque chose dans le genre ou pas vraiment?
Oui, non, mercredi matin, c'est la première activité que nous avons fait. On a souhaité la bienvenue à tout le monde, mais on a aussi présenté le personnel. Mine de rien, il y a à peine 8 semaines, j'étais un petit peu tout seul et aujourd'hui, là, on est tout près d'une vingtaine autour de l'équipe. Alors, c'était important pour les joueuses physiquement de voir le staff devant elles. Ça se faisait là, au deuxième étage du centre 2102 là, à l'auditorium de Verdun. C'est magnifique. Il faisait beau mercredi en plus, ensoleillé. On voyait la plage de l'arrondissement. Les joueuses là, qui avaient débarqué à Montréal la veille avaient trouvé ça excessivement beau. C'est un wow lorsqu'on monte au deuxième étage puis on voit l'amphithéâtre là, des patinoires Scotty Bowman d'un côté, Denis Savard de l'autre et on se dirige vers le derrière, c'est-à-dire vers l'eau. Alors oui, simplement m'adresser à elle en disant ben d'abord et avant tout bienvenue. J'ai décrit ce que c'était Montréal hein, parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent même pas la population. Et en même temps d'écrire les prochaines semaines. Et c'est un environnement de l'équipe professionnelle. La plupart n'ont jamais vécu ce type d'environnement provenant de diverses équipes nationales. Alors c'est un bon départ et c'était bien le fun là, de rencontrer pour la première fois l'ensemble de l'équipe physiquement.
Comment réagis-tu comme bâtisseuse de cette ligue-là, comme directrice générale de la ligue au fait que bon, j'imagine qu'il y a du monde qui a besoin de s'occuper ces médias sociaux puis qui bâchent sur les chandails?
Ben en fait, les chandails, les couleurs des chandails ont été annoncées. C'est physiquement pas les chandails avec lesquels nous allons jouer. Pour la simple et unique raison que ça prend autour de 16 semaines pour recevoir les chandails. Ce sont les chandails de la même catégorie que la Ligue nationale. Alors, si les chandails ont été commandés en septembre dernier. Alors oui, on va porter là, devant nous, ça va être marqué Montréal. Et quelle fierté, la plupart des joueuses ont dit « Wow, on va jouer pour l'équipe de Montréal ». Alors oui, on n'aura pas de logo de l'équipe. Il est prévu d'avoir un nom. Mais en même temps, le chandail, la qualité va être exceptionnelle. La couleur Bourgogne et beige. Les propriétaires, le leadership de la Ligue nous répète quasi à toutes les 2-3 jours lors des dernières semaines que c'est le chandail dit héritage. C'est un chandail de lancement. Alors, on verra pour l'an 2 si le chandail va demeurer le même, si les couleurs même vont demeurer le même. Alors, je comprends que les gens peuvent regarder ça de loin et c'est facile de juger, mais moi, je peux te confirmer, Mario, il y a tellement de personnes de travail, des heures de travail pour s'assurer là que le premier match là ouvert le 1er janvier se jouera et les gens seront au rendez-vous.
Le Canadien n'a que 2 victoires à ses 9 derniers matchs, cher Daniel. Vois-tu malgré tout des choses qui te plaisent?
Ben beaucoup. J'ai beaucoup aimé là Martin Saint-Louis vanter ses joueurs cette semaine en disant c'est probablement même avant le match d'hier soir. Contre Vegas, dire c'est probablement la série de 4 matchs qui m'a le plus plu depuis que je suis ici avec le Canadien de Montréal. Alors, les victoires, c'est une chose. J'y étais au Centre Bell lors du match de Calgary. On avait, comme tu sais, beaucoup de difficultés à enfiler la rondelle, à compter. On avait de difficulté jusqu'à hier là, à compter beaucoup de buts, mais en même temps, puis on avait de la difficulté aussi en deuxième, c'est-à-dire qu'on arrivait à créer des surnombres, mais de maintenir la rondelle profondément dans le territoire de Calgary, c'est là où on avait certaines difficultés. Et les 2 entraînements qui ont suivi le match contre Calgary et en prévision du match d'hier soir, j'ai vu encore une fois, et c'est ça qui est extraordinaire, de voir les entraînements, le type d'entraînement qu'il a tenu et avoir directement de l'impact dans le match suivant. Alors moi, ce que ça me dit comme entraîneur ou ex-entraîneur, c'est que le message continue de passer. Il y a beaucoup de travail. Hein. On a rapporté qu'Anderson a compté un but et l'ensemble des joueurs l'ont applaudi. Alors cette équipe-là est soudée, connaissent bien le travail qui est fait de match en match Et oui, le nombre de victoires sont pas là, mais je pense qu'ils continuent à compétitionner contre des équipes que toi et moi, j'ai bien l'impression qu'on ne croyait pas que le Canadien sera là, serait là où il est présentement au cours de la saison.
T'aimes le fait qu'on sépare Caulfield et Suzuki à part en prolongation ou encore sur les unités spéciales? Moi, je suis pas du tout réfractaire à l'idée, mais il y en a qui pensent que tu sépares pas un buteur de son passeur.
T'as un peu raison là-dessus, dans le sens où Dvorak, recevoir une passe de Dvorak, c'est bien différent pour Caulfield que de recevoir une passe de Nick Suzuki, ça, il n'y a aucun doute. Mais en même temps, ce sont des jeunes présentement qui apprennent à jouer aussi avec des joueurs qui sont complètement différents et doivent maintenant, puis je suis convaincue que c'est l'idée de Martin Saint-Louis, c'est d'être capable d'avoir de l'impact, peu importe avec qui tu joues. La synergie, on la connaît déjà. Alors, pourquoi pas tenter de les exposer à des joueurs différents puis de ramasser un peu plus de d'outils dans leur coffre. Alors moi, j'aime ce que j'ai vu avec Dvorak et Cole Caulfield. Pourquoi? Parce que Cole Caulfield continue, même s'il y a de la difficulté à mettre la rondelle sur le filet, mais à 3 reprises dans le match principalement de Calgary, si la rondelle avait été bien positionnée sur la passe, Caulfield aurait probablement compté.
Alors, il n'a pas sa palette souvent.
Et c'est un peu ça. Il réussit à lancer. Devra mieux lancer en mouvement aussi.
Oui.
Et ça, pour être capable d'arriver à faire ça, Mario, la qualité de la passe, elle est tellement.
T'as raison. Sur réception également. Si tu l'as pas sur le tape, c'est bien, bien, bien difficile. Fait que t'es obligé de jongler un peu.
C'est ça. Ils apprennent à avoir plus d'impact avec des joueurs différents. Et ça, j'aime beaucoup cette stratégie-là.
Ben, Daniel, bonne fin de semaine. Aucun entraînement de l'équipe féminine. Bonne fin de semaine comme amateur de sport également. J'imagine que tu vas regarder du hockey. Du football dimanche. Merci, ma chère. Merci.
Du football dimanche. Merci beaucoup.
Bye bye. On revient tout de suite.
Merci.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse. Crampe.
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
On rejoint maintenant Bruno Eppel, question de voir comment il anticipe le match de la Coupe Grey dimanche à Hamilton. Il est déjà sur place. Bien le bonsoir, Bruno.
Salut, Mario.
Bon, la victoire contre les Argonauts la semaine dernière a de quoi inspirer, mais si on regarde ce qui s'est passé cette année dans les affrontements entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Alouettes de Montréal, ça va prendre plus que des interceptions si Montréal souhaite sortir de là avec les bras en l'air, avec le trophée dans les mains.
Ouais, ben c'est clair que si tu te fies aux deux matchs que les Alouettes ont joué contre les Bombers, c'était deux matchs où on a dominé 17-3 le premier affrontement à la semaine 4. Après ça, à la semaine 12, on est allé à Winnipeg. Malgré deux interceptions retournées pour des touchés, ben Kolaros a enfilé 4 passes de toucher et on a perdu 47-7 résultats. Là, tu sais, c'est les matchs de saison régulière. Puis en bout de ligne, maintenant, là, puis ça, c'est la beauté du sport. Je pense qu'il n'y a plus rien de tout ça qui compte. T'sais, parce que les Alouettes sont une différente équipe que l'on a vue à la semaine 12. Ils seront pas à Winnipeg devant une foule hostile. Ils vont être à la Coupe Grey à Hamilton contre les Blue Bombers qui sont très bons, qui sont favoris, mais en bout de ligne, une équipe des Alouettes qui est vraiment différente de ce qu'elle était à la semaine 12 lorsqu'elle a affronté les Bombers. Une chose est claire, par contre. Là. Je pense qu'il va falloir que l'attaque en fasse un peu plus. On n'a pas le choix, cette fois-ci.
Clairement. Et ça passe par où? Ça passe comment on va faire ça en faire plus? Je sais qu'on met beaucoup de pression sur la ligne offensive, comme si elle était responsable du fait que Fajardo n'est pas en mesure de générer davantage de production en attaque.
Ben, première des choses, c'est des décisions. Oui, regarde, la ligne à l'attaque doit faire mieux. T'as accordé 7 sacs du corps, puis là, t'affrontes les Bombers qui viennent d'en réussir 9 contre les Lions de la Colombie-Britannique la semaine passée. Ouch! Ouais, c'est tout le monde qui sait compter en mathématiques va dire, ouais, là, ça, c'est pas l'avantage aux Alouettes. Mais la réalité dans tout ça, c'est qu'il y a moyen d'avoir des protections maximales. Il y a moyen aussi d'avoir des passes voilées, des jeux d'attirer. Il y a plein de choses que tu peux faire pour essayer de battre cette pression-là qui va s'amener vers ta ligne à l'attaque pour ralentir les ardeurs des Bombers. Puis l'autre chose, Adam Bigill, leur secondaire étoile, ne sera pas du match de toute évidence. Là. Fait que est-ce qu'on peut attaquer ce front-là qui va être privé du meilleur plaqueur probablement de la Ligue canadienne dans les dernières années, Adam Bigill, qui ne sera pas là au centre là, pour arrêter William Stenback. Tu sais, courir avec le ballon, établir l'attaque au sol, c'est une chose aussi qu'on n'a pas été capable de faire dans les deux matchs contre les Bombers. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent aider Cody Fajardo à faire mieux son travail.
Si on y va par individu, est-ce que tu dirais que Collaros, donc le quart des Bombers, est le meilleur joueur sur le terrain des deux équipes?
Jusqu'à preuve du contraire, Zach Collaros, dans un match de la Coupe Grey, c'est le joueur avec le plus d'expérience, c'est le joueur qui a l'habitude d'être là, c'est le joueur qui s'en laissera pas imposer, c'est le joueur qui, contrairement à Chad Kelly la semaine dernière, là, qui a eu un mauvais début de match, il nous l'a prouvé, là, dans le match que je vous ai parlé, où on a eu deux interceptions retournées pour des touchés contre lui, donc c'était trois interceptions dans le match, puis malgré tout, Zach Collaros a réussi à nous enfiler quatre passes de touchés. Ce sera pas comme Chad Kelly, là. Lui, il paniquera pas, il va revenir en force sur la séquence suivante, c'est une équipe qui risque pas de faire ça en plus, là, je te dirais, tu veux pas, là, l'esprit de la semaine dernière, c'était David contre Goliath, là. T'sais, mais là, les Bombers, c'est encore David contre Goliath, mais ils savent qu'on a une fronde avec une roche.
Oui, c'est ça l'affaire, là. Ils connaissent la recette, là. Ils savent comment les Alouettes se sont rendus là.
C'est ça. Donc, tu sais, ça me surprendrait que les Alouettes soient capables de faire appuyer le beau temps en défense autant qu'ils l'ont fait contre les Argos. Je pense qu'ils vont être capables de jouer un bon match, mais il va falloir que l'attaque fasse sa part, il va falloir que les unités spéciales fassent leur part, puis veux pas, quand t'affrontes une équipe qui est meilleure que toi partout sur le terrain, qui a tout à perdre, toi t'as tout à gagner, ben là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la pression, il y a l'instinct de vouloir vaincre. Il y a toutes ces choses-là qu'on va voir qui font que moi, je pense qu'on va avoir un match beaucoup plus serré que le 47-17 du dernier affrontement entre les deux équipes. Là.
Ouais, moi aussi, je m'attends à un match plus serré. Dirais-tu que la défensive contre laquelle l'offensive des Alouettes va tenter de générer des points, que la défensive donc de Winnipeg est supérieure à celle de Toronto qu'on a affrontée la semaine dernière?
Ben, je te dirais que la ligne défensive, pour moi, est supérieure, même si elle a mené pour les sacs du corps. Je pense que c'est les Argos qui ont mené, mais ça compte plus. Là. On revient encore à une chose, l'expérience. Tu sais, eux, là, ça fait la quatrième fois consécutive là, qu'ils arrivent à la semaine de la Coupe Grey. Ils sont habitués. Puis cette défense-là, elle était numéro un partout. T'sais, tu regardes toutes les statistiques importantes, là, quand tu regardes les statistiques, là, les Alouettes sont défavorisées contre les Bombers, défensivement et offensivement. Fait qu'on ne se lancera pas là-dedans. Mais définitivement, la défense des Bombers à la Coupe Grey, c'est clair que pour moi, c'est une meilleure défense que ce qu'on a vu la semaine dernière face aux Argos. Par contre, je le répète, il manque ton capitaine, ton général, Adam Bigill, puis ça, c'est une quantité non négligeable quand tu sais que les Alouettes vont devoir courir pour gagner ce match-là.
On allume-tu un lampion? Qu'est-ce qu'on fait pour ce match-là dimanche? J'annule-tu mon petit souper entre amis ou ben tu penses qu'on a un suspens jusqu'à tard au quatrième quart? Déjà ça, tu sais, honnêtement, la victoire, ça serait le gros bonus, mais je prendrais un bon match chaudement disputé, peu importe les résultats.
Peu importe ce qui arrive, l'histoire des Alouettes est une histoire absolument incroyable. Juste qu'ils soient rendus à la Coupe Grey après avoir été mis bon dernier en début de saison, avec la main que Danny Machocha s'était fait donner dans la saison morte. Peu importe ce qui arrive, c'est une saison avec un énorme succès, mais je pense sincèrement, j'aime cette équipe, j'aime le vestiaire de cette équipe-là, puis ça, c'est des impondérables. Les impondérables, en ce moment, sont pour les Alouettes. Moi, je pense qu'on va avoir un excellent match de football. Puis oui, organise-toi pas un souper, tu vas avoir un match jusqu'à la fin.
Salut, mon Bruno, merci beaucoup.
Salut, mon Mario.
Bye. Bonne fin de semaine. Bye-bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport.
Il l'a vécu comme joueur, lui, aller à la Coupe Grey, gagner la Coupe Grey, et a toujours fait partie, même depuis sa retraite comme joueur, de l'aventure des Alouettes. Et ça a été une aventure plutôt rocambolesque. Je suis assez curieux de connaître les sentiments qui l'habitent à l'avant-veille de ce match de la Coupe Grey, toujours avec la même famille des Alouettes, nul autre que l'entraîneur de la ligne offensive, ex-centre offensif lui-même de l'équipe, Luc Brodeur-Jourdain. Salut, Luc!
Salut!
Comment ça file?
Ça file tellement bien, dans le sens où est-ce que c'est comme une poussée d'adrénaline, évidemment, en vue de la Coupe Grey, mais également une poussée de soulagement. Dans le sens où est-ce que, oui, on a fait partie des séries éliminatoires dans les dernières années, mais le fameux match, puis même quand on regarde la saison de cette année, le mémo qui en sortait de notre saison, c'est que on était une équipe qui gagnait contre toutes les équipes qui étaient en dessous de 500, puis qui jouaient en bas de la moyenne, c'est-à-dire
oui.
Une victoire, une défaite, puis on perdait les matchs contre les grosses équipes, et puis la semaine dernière, la performance qu'on a donnée en tant qu'équipe à Toronto, une équipe qui avait eu seulement deux défaites dans la saison, ça fait extrêmement du bien, puis ça nous a donné accès, ça nous a donné notre billet à cette expérience exceptionnelle qui est d'aller au match ultime de la Coupe Grey.
Et toi qui y as participé, tu étais de la dernière édition à y aller à cette Coupe Grey, Luc. Qu'est-ce que t'amènes au groupe qui ne l'a pas vécu? Il y en a qui l'ont vécu individuellement, mais qu'est-ce que t'amènes à ton groupe, à la ligne offensive, à l'attaque, puis à l'équipe là, en préparation de cette semaine-là pour dimanche?
Ben, le gros mot que tu viens de dire, c'est le mot préparation. C'est dans le sens où est-ce que... C'est drôle à dire, mais le but de l'entraîneur durant la semaine, c'est de normaliser les choses dans le chaos. C'est-à-dire, il y a des entrevues, tout est différent, on n'est pas dans notre atmosphère, on se prépare pas au stade au stade olympique, on est dans les installations des Tiger Cats, donc on doit se démontrer flexible, mais en même temps, c'est d'essayer de faire en sorte que tout reste comme d'habitude. On essaie de faire les choses, de normaliser les choses au maximum, parce qu'on sait que c'est ultimement c'est une semaine exceptionnelle. Tu sais, c'est une semaine unique. Il y a une envergure à ce qui se passe en ce moment pour nous, qui est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on le pense, dans le sens où est-ce que c'est un gros match de championnat. Ça fait des années qu'on y a pas été. Donc ça fait énormément de bien, mais en même temps notre but c'est comme de calmer la chose puis de dire regardez les boys, faut juste se préparer comme on l'a fait toute l'année puis croire en nos moyens, livrer une belle performance puis tout devrait bien aller. La préparation a été exceptionnelle cette semaine, les joueurs ont bien performé tout au long de la semaine. Puis le mot ultime de Jason Moss pour toute l'équipe tout au long de la semaine, ça a été le travail. C'est ce qui nous a mené à ce match là. Donc, pourquoi changer la recette? Pourquoi changer le processus? C'est de les ramener sur cet effet-là, parce qu'il reste en soi que c'est une semaine qui est totalement anormale par rapport au conventionnel de ce qu'on vit habituellement.
On est avec Luc Brodeur-Jourdain. T'as un bon feeling pour dimanche, Luc?
J'ai un très bon feeling, un très, très bon feeling. Je crois que le match, puis ça, c'est ma croyance personnelle, mais en même temps, je change pas la recette du football. Si on a une attaque qui prend soin du ballon tout au long du match, qui n'occasionne pas de revirement, qui est capable de changer le positionnement de terrain graduellement, on a les unités spéciales, on a la défensive. On n'aura peut-être pas puis je le souhaite le plus ardemment, je souhaite qu'on ait, une explosion offensive puis qu'on éclate Winnipeg. Ultimement, ça reste que c'est une équipe qui est très bonne, c'est une très bonne équipe qui est bien rodée depuis bien des années. Donc, ça va être un match compétitif, ça va être une belle Coupe Grey, et puis ça va en venir à quoi? Ça va en venir au revirement occasionné par les attaques, que ce soit par des interceptions ou des échappées, qui vont faire en sorte que l'équipe adverse va pouvoir en profiter. C'est vraiment ma façon de voir ce match-là, parce que quand on regarde les unités spéciales, on a les unités spéciales, on a la défensive, les ingrédients sont là pour avoir un très, 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 très bon match.
Sens-tu qu'il y a une petite pression accrue sur la ligne offensive et sur l'attaque d'en faire un petit peu plus, de protéger le corps un petit peu plus, lui éviter quelques sacs? Comment envisages-tu ce match-là pour la ligne offensive, très particulièrement en terminant, Luc?
Bien, assurément, je te dirais que c'est un très bon défi pour la ligne à l'attaque cette semaine, dans le sens où est-ce qu'ils ont cette équipe-là, les Blue Bombers de Winnipeg, ont deux alliés défensifs Jeff Colt et Jefferson, les deux alliés défensifs qui sont dans la Ligue depuis des années, qui ont été performants, qui ont été productifs. Et la recette de Winnipeg est somme toute assez simple, mais difficile à contourner. On met de la pression de l'intérieur en forçant les gardes et le centre à être poussés vers l'arrière, c'est-à-dire faire sentir le carrière inconfortable dans sa pochette pour que les ailiers défensifs accumulent les sacs du corps et les pressions sur le carrière. Donc la recette est sur film, est sur papier. mais elle est difficile à contourner. Je crois qu'ils ont de bons joueurs pour accomplir cette mission. Et les couvertures sont évidemment les couvertures de passe ne sont pas nécessairement faciles pour un carrière en termes de lecture. Donc, c'est un très, très bon défi défensif. C'est pourquoi je dis c'est extrêmement important pour nous de protéger le ballon tout au long du match et de vivre pour la prochaine opportunité. Si on est en deuxième essai long ou quoi que ce soit, de vivre pour la prochaine opportunité d'avoir le retour sur le terrain avec un meilleur positionnement.
Luc, on vous souhaite, je te souhaite la meilleure des chances dimanche. On est avec vous. Merci beaucoup de l'entretien.
Merci à vous.
Les Alouettes à la Coupe Grey dimanche. Notre spécial de ce vendredi soir se poursuit dans un instant avec le botteur de précision David Côté. Stéphane Leroux sera là également tout à l'heure avec les résultats juniors et du Rocket de Laval.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport.
Accueillons maintenant le botteur de précision des Alouettes de Montréal, nul autre que David Côté. Bien le bonsoir, David.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, toi-même. Là. Qu'est-ce que tu ressens de ton équipe, des différentes unités, puis du groupe en entier, là, en ce vendredi soir, à l'avant-veille du fameux match, du dernier match de l'année, celui de la Coupe Grey?
Très confiant. On a eu une belle semaine de pratique. L'atmosphère dans le vestiaire est très bon aussi. Donc, c'est là, tout ce qui est travail physique est fait. Il reste à se reposer, puis les derniers préparatifs, puis on a hâte d'embarquer sur le terrain dimanche.
C'était prévisible, j'imagine. Tu sais, on a parlé un petit peu plus tôt cette semaine avec toi et Marc-Antoine, puis j'ai parlé avec également Byron Archambault, je pense que c'est mercredi, puis j'ai les distractions, Winnipeg, même s'il y a eu des joueurs qui n'étaient pas là les trois dernières années, c'est une quatrième année de suite qui sont à Coupe Grey. Vous autres, c'est une première année, les grosses émotions de la victoire la semaine passée, distraction potentielle. Alors, quand j'ai vu que Jason Moss avait comme fait un petit speech remettre tout le monde à l'ordre en fin d'entraînement cette semaine, je me suis dit que c'était prévisible. Tu t'y attendais, puis est-ce que ça a fait du bien?
Ben, on s'y attendait. C'est certain que c'était plus un petit rappel. Là, comme tu dis, c'est la première fois pour plusieurs d'entre nous qu'on est dans un match comme ça. Puis, évidemment, à l'extérieur du terrain, il y a plein de choses qui se passent qui sont pas à l'habitude. Mais vraiment, le rappel, c'est quand on est sur le terrain, que c'est une pratique comme un autre, c'est un match comme un autre. Puis, tu sais, d'être dans le moment présent, puis c'est ça qui a été important. Donc, il s'est assuré de nous dire ça en début de semaine pour qu'on continue notre semaine d'entraînement de la bonne façon.
Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour être fin prêt pour le match de dimanche? À quoi sera consacrée la journée de samedi?
Ça va être des meetings, ça va être des derniers préparatifs, des rappels sur des stratégies, des façons de faire qu'on va faire durant le match. Comme j'ai dit, là, tout ce qui est physique est pas mal fait, donc ça va être les derniers petits préparatifs de jours avant le match. Donc, on va passer la majeure partie de la journée à avoir des meetings d'équipe là, pour être sûr que tous les détails ont été approchés.
Quel souvenir gardes-tu des affrontements contre Winnipeg cette année? T'sais, on disait que c'était tout un défi que de battre Toronto la semaine dernière. Je pense que c'est presque un défi équivalent. Et malgré une bonne performance à défensive lors du dernier affrontement contre les Bombers, ça les a pas ralenti. 47-17 leur victoire, David. Alors vous autres, comment vous faites... comment vous pensez à ce score-là en vous disant que vous pouvez complètement renverser la vapeur dimanche?
Honnêtement, on pense pas du tout à ce score-là. Notre équipe, je te dirais, elle a changé depuis cet affrontement-là. T'sais, on a des nouveaux joueurs qui se sont greffés à l'équipe. Les stratégies aussi ont changé. Là. Puis effectivement, il y avait eu le meilleur de nous dans ce match-là. Mais nous, on est très confiants. T'sais, on vient de jouer. On est sur une belle séquence de plusieurs bons matchs. Puis, c'est à nous de jouer un autre bon match. Puis, évidemment, c'est un bon défi. Comme on a dit tantôt, c'est la deuxième fois qu'il se rend à la Coupe Grey. On n'est pas là par pur hasard puis par chance. Là. On n'a pas, notre nom n'a pas été pigé dans un chapeau. On a travaillé fort pour se rendre jusque-là. Puis, on sait qu'on a notre place à ce match-là.
Tu as raison de le mentionner, mais j'ai l'impression que vous performez mieux quand vous sentez qu'il y a un certain doute quant à votre performance. Alors, j'entretiens ce sentiment, David. À quoi ressemble une semaine d'entraînement pour toi comme botteur de précision? Es-tu un peu à part des autres?
C'est certain que nous, souvent, on sort avant la pratique pour avoir plus d'espace sur le terrain. Parce que durant la pratique, quand tout le monde est là, la majorité du terrain est souvent prise, là. Donc, on sort d'avance, on fait la majorité de notre travail avant que les joueurs sortent. Puis pendant, là, évidemment, on a les périodes d'unité spéciale qu'on, qu'on fait avec l'équipe. Sinon, avec Louis-Philippe Bourassa, Joseph Zimon, on s'en va faire des placements sur le terrain quand on a de l'espace, travailler les bottiques, on va travailler toutes sortes d'affaires, là, c'est travailler ma technique un petit peu aussi sur le côté, quand l'espace le permet. C'est pas mal ça. Là. Souvent, un plus gros volume de pratique en début de semaine, puis ensuite, on diminue tranquillement pas vite vers le match.
Juste pour le fun, par curiosité, là, combien de bottées de placement auras-tu tenté avant le match de dimanche? Si on parle de ta semaine d'entraînement, là, combien de fois tu te serais lancé pour tenter un placement en situation d'entraînement?
C'est une bonne question. Je compte pas vraiment mon nombre de bottées. Je te dirais que c'est surtout une question de feeling. Des fois, on dit qu'on en fait 3, puis ça finit qu'on en fait 8. Donc, je sais pas, peut-être une 150 bottées, là, environ, je vais dire ça de même, en plus de tout ce qui est sur le côté, puis d'autres petits trucs qu'on fait durant la pratique.
Wow, fait qu'on a déjà fait des comparaisons ensemble entre l'élan d'un batteur de précision et l'élan d'un golfeur, bien que c'est différent, il y a une approche qui peut se ressembler, donc dirais-tu que ton élan te place en confiance en ce moment?
Oui, très en confiance. Puis, tu sais, on a la chance de pouvoir pratiquer toute la semaine sur le terrain sur lequel on va jouer. Donc, ça aussi, ça l'aide. Là. Tu peux te familiariser un petit peu avec l'environnement, avec l'environnement. Toutes les choses comme ça qui ne seront pas une surprise au match. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Puis, la semaine de pratique a très bien été. Donc, je suis en confiance pour en fin de semaine.
As-tu des bons souvenirs du stade d'Hamilton?
Oui, on a gagné nos deux matchs qui étaient ici cette année, donc j'ai des très bons souvenirs. On va essayer d'y aller pour une troisième fois de suite. J'ai des très bons souvenirs ici, on est confiant de jouer ici. Puis tu sais, on est quand même chanceux, je crois. La coupe Grey, c'est dans l'Est cette année. C'est pas si loin de Montréal, je crois de ce que j'ai entendu, qu'il va y avoir quand même plusieurs fans qui vont faire la route pour venir nous supporter. Donc ça aussi, ça va être parfait pour nous.
Est-ce qu'il y aura de la famille?
Oui, je suis très chanceux. Mes parents, ma soeur, ma copine et mon oncle vont faire la route. Eux, ils partent de Québec. Là, je pense qu'ils partent vers 5h30 ou 6h demain matin. Parce que c'est un petit peu plus loin. Puis ils vont faire la route. Ils vont venir passer ce beau moment-là avec moi.
Ben David, écoute, on touche du bois, on se croise les doigts ou ce que tu voudras, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour le match de dimanche. Bonne chance, les Alouettes.
Un gros merci, c'est gentil.
Merci, David. Bonne soirée, repose-toi bien. C'était David merci. Côté, batteur de précision des Alouettes de Montréal.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.